France Culture.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Ce midi, nous avons rendez-vous chez Hervé Le Tellier pour un portrait culinaire. Car si Hervé Le Tellier, écrivain prolifique, heureux lauréat du prix Goncourt 2020 pour L'Anomalie, qui fut un énorme best-seller, si Hervé Le Tellier donc n'est pas un professionnel de la gastronomie, il en a tout l'air. Fin gourmet, amateur de bonne chère, bon cuisinier, il a l'art d'écrire sur les plaisirs de la table. De fait, on mange beaucoup dans ses livres. Sur une trentaine publiées, on a relevé des références au fait de manger et de boire dans au moins 6. Sonate de bar, Le voleur de nostalgie, Mon dîner avec Winston, Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable, Les comptes liquides, Assez parlé d'amour. Et même un court passage au début de L'Anomalie. La Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts ne s'y est pas trompée qu'il a invité à son festival Mets et mots 2025. Cher Hervé Le Tellier, bonjour.
Bonjour.
Alors vous nous accueillez chez vous, on est assis à votre table de cuisine salle à manger et vous êtes en train, il faut que je le précise pour nos auditeurs et nos auditrices, de peler des carottes, d'éplucher des carottes parce que vous allez préparer un ossobuco pendant que nous parlons, c'est ça?
C'est ça même. Et alors pourquoi faites-vous une différence entre pelé et épluché?
Je me suis posé la question en le disant, figurez-vous, mais je m'adresse à vous, amateur de mets et de mots.
Je pense que pelé, c'est pour une peau. La peau des tomates, la peau des pêches. Comme il n'y a pas de peau pour les carottes, ça doit être, on doit dire épluché.
Et c'est quoi que vous enlevez de la carotte alors?
Des épluchures.
Quel mangeur êtes-vous, Hervé Le Tellier?
Je suis un mangeur qui est un mangeur honteux, c'est-à-dire je fais partie de ces gens qui tentent en permanence de ne pas grossir et lorsqu'ils mangent, qui fait semblant de compter ce qu'ils mangent. Mais en fait c'est faux, je ne mesure absolument pas les quantités et je suis aussi un mangeur qui n'est pas systématiquement un mangeur qui fait la cuisine. Je fais beaucoup le restaurant, c'est aussi lié à la pratique de l'écriture. Comme on est assez solitaire dans ce métier, le fait de sortir de chez soi est une nécessité mentale. Et le moment où on peut sortir, c'est le moment du déjeuner, de manière à un peu rompre la pratique de l'écriture. Parce que moi, quand je me mets à écrire, je pense que chacun a une pratique différente, mais c'est pas de l'ordre du systématique, 3 heures par jour, c'est plutôt de l'ordre du 8 heures, avec des jours où je ne fais rien, et lorsque je travaille pendant 8 heures de suite, j'ai besoin d'une pause d'une heure et demie, 2 heures. Donc je sors.
Ça veut dire que vous allez seul au restaurant?
Oui, ça m'arrive. En général, je m'organise pour trouver des camarades dans la même détresse que moi. Mais parfois, oui, j'y vais seul. C'est pas en soi un problème. Enfin, je n'ai pas l'impression d'une grande solitude au restaurant.
Vous habitez le 18e arrondissement de Paris. On peut dire que vous êtes sur la butte Montmartre. Hervé Le Tellier, c'est bien pour se nourrir chez Amélie Poulain?
C'est pas un endroit désagréable parce que la butte se divise en au moins deux. Il y a la butte avec touristes et la butte sans touristes. Et on a beau se trouver près du Sacré-Cœur, on peut être habité dans un coin sans touristes. Et c'est mon cas parce que l'endroit où j'habite est un endroit qui se trouve tout près de la place du Tertre. Mais le touriste s'oriente en montant les escaliers vers la place du Tertre alors que moi je suis dans l'autre sens.
À quand remonte votre premier choc gastronomique, vous sauriez le dire?
Je pense que c'est la découverte, ça peut paraître idiot, mais de l'huile d'olive et du plat méditerranéen, de manière générale. Ma famille est du Nord, de l'Est, et c'est donc l'univers du beurre, du persil, et pas l'univers du basilic et de l'huile. Je pense que c'est de là que ça date, et j'ai tout de suite aimé l'ail, tout de suite aimé les pâtes, ma mère disait les nouilles, c'était typique d'un rapport au sud. Et je pense que c'est de là que ça date. Et d'ailleurs, mon premier livre, roman, s'appelait Le voleur de nostalgie. Et ça parlait de recettes de pâtes, parce que j'avais commencé ma carrière de journaliste dans la rubrique Quelle époque, qui était la rubrique tenue par un homme absolument charmant, qui s'appelle Bernard Chapuis. Et Bernard m'avait confié donc des petites nouvelles. J'avais fait d'abord des nouvelles de cocktail qui sont devenues les sonates de bar. C'est lui qui avait trouvé le titre. Cet homme était le roi des titres. J'y étais avec d'autres journalistes dont on n'imagine pas qu'ils se trouvaient là-bas, comme par exemple Philippe Lançon. Et on avait tous les deux des métiers tout à fait agréables où on travaillait sur à la fois la nourriture, mais aussi les vins, les voyages. Le travail, disons, sur la nourriture et sur les mets, voilà, ça m'est venu assez rapidement, à la suite effectivement de la découverte d'un univers que je ne connaissais pas, parce que je venais d'une famille dans laquelle la nourriture n'était pas si importante que ça, et où on n'avait pas de salle à manger, par exemple. Ça peut étonner, mais il n'y avait pas de salle à manger. On mangeait une sorte de réduit qui était la cuisine, toute petite, hein, et dans laquelle majoritairement on mangeait des nouilles, des... voilà. Alors on faisait des plats qui avaient des noms, qui étaient des noms étrangers, comme la pasta chute. Et la pasta chute, c'est en fait un nom italien, c'est pasta chuta. C'est un plat pauvre qu'on fait avec des chutes de pâtes, pasta chuta. Et le mot, lorrain ou alsacien, c'était la pasta chute, parce que c'était l'adaptation du mot. Et on faisait ça, effectivement, avec des restes de pâtes, un peu de pommes de terre, de la viande hachée, un petit peu de sauce tomate. Et ça n'avait absolument rien à voir avec un plat italien, mais bon, ça s'en approchait un peu.
On comprend mieux, Hervé Le Tellier, pourquoi dans vos livres, il y a autant de pâtes, d'ail également. Il y a beaucoup d'ail, j'ai relevé beaucoup d'ail en travaillant sur vos textes. Mais quand vous dites qu'il y avait beaucoup de pâtes et des pastas chutes, et plutôt des nouilles d'ailleurs dans la cuisine de votre enfance, est-ce que vous seriez capable de nous donner les odeurs, les saveurs même? Tiens, quelle serait la madeleine de Proust d'Hervé Le Tellier?
La madeleine de Proust, c'est une chose bizarre. C'est une sorte de pâte au lait et aux pommes de terre. Je ne connais absolument pas le nom de la chose. Et il y avait un fond d'oignon aussi. Et je ne sais pas du tout ce que c'est que ce plat. C'était ce que faisait ma grand-mère, parce que ma grand-mère était la femme qui faisait la cuisine. Et peut-être un autre souvenir d'enfance, c'est la purée de navets et de carottes.
C'est bon ça?
C'est très bon. Oui, c'est assez bon et ça se mange en général avec une saucisse, comme une saucisse de Toulouse, voilà, ou une Strasbourg, voilà. Et c'est très bon, une meurtreau. Voilà, c'est mes deux souvenirs vraiment d'enfance. Et aussi les bières que buvait ma grand-mère, qui étaient des bières qu'on a oubliées. La Valstar, qui avait un bouchon classique, où on dévissait. Ou la limonade Duménil. Alors moi, j'avais le droit à un mélange, quand j'étais enfant, de Valstar et de Duménil. La Duménil étant une limonade qui avait un petit goût de citron. Je ne sais pas si on la trouve ensemble. En tout cas, la Valstar a définitivement disparu.
Vous avez dit, Hervé Le Tellier, que vous aviez commencé à écrire comme critique culinaire. C'était à Télérama, quelle époque? Ou c'était vraiment... quelle époque?
Alors, quelle époque? C'était une rubrique de l'événement du jeudi, fondée, dans mes souvenirs, en 1984. Et j'ai commencé à y travailler en 1984. J'avais commencé à écrire des sonates de bar, donc des petites nouvelles. Et j'ai occupé ce poste de chroniqueur cocktail pendant quasiment 3 ans et demi. Après 3 ans et demi de cocktail, je pense que j'en avais un peu assez. Ça faisait quand même... j'ai dû en faire au moins 120, quoi, des recettes de cocktail. J'avais appris avec le livre du barman du Ritz, Frank Smeyer, qui s'appelait « The Art of Mixing Drinks ». Et en faisant cette chronique, j'avais réussi à mélanger à la fois le goût pour les différents cocktails que j'aimais, qui étaient le Black Russian, le Manhattan, mais aussi la Pina Colada, des alcools assez divers, et pour la petite nouvelle, la nouvelle courte, que j'affectionnais. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser non seulement à la forme courte, mais à la forme courte contrainte. Parce que je devais remettre mon article de 2000 signes le mardi. Je m'étais donc amusé à remettre exactement 2000 signes. Non pas 1999, non pas 2001, mais 2000 signes. Et je crois que j'ai tellement aimé ça que je l'ai systématisé ensuite pour les recettes de pâtes sur lesquelles j'ai enchaîné, où je suis resté sur la même distance. Parce que j'avais dit à Jean-François Kahn que j'en avais assez de travailler sur les cocktails, mais que je voulais continuer à travailler à l'événement avec d'autres recettes. Et j'avais décidé de faire... j'ai fait des recettes pendant un certain temps, quoi.
Est-ce que parler de nourriture, de bouffe dans les livres, vous le prenez comme une contrainte, au sens où c'est une contrainte oulipienne, donc c'est une contrainte ludique pour vous, président de l'Oulipo, le délier. Est-ce que c'est jouissif et en même temps, c'est un jeu sur la contrainte?
Alors ça dépend. Parfois, ce n'est pas du tout une nécessité. Je n'utilisais la contrainte sur des recettes que parce qu'elle amenait quelque chose. C'est-à-dire, quand je racontais une recette de pâte, par exemple, c'était toujours une nouvelle. C'est-à-dire qu'elle était accompagnée d'une dimension narrative qui faisait qu'il y avait des personnages qui étaient introduits. C'était toujours les mêmes, hein, parce qu'on ne peut pas travailler sur du demi-signe sans proposer au lecteur une sorte de régularité de personnages, de lieux. En revanche, mettre systématiquement une recette de pâte dans un roman, non, ça c'est pas pour moi une contrainte.
Quand on épluche, pour reprendre le terme maintenant qu'on le connaît, quand on épluche vos recettes de cuisine, et j'utilise cette expression à bon escient d'ailleurs, et même avec ses nombreuses acceptions, on voit que vous utilisez ce matériau, disons, littéraire de différentes façons. C'est-à-dire que il y est parfois au cœur du récit. C'est le cas pour Sonate de Bach, pour Le voleur de nostalgie, pour Mon dîner avec Winston. Et puis parfois, c'est plus périphérique. Par exemple, dans Assez parler d'amour, il y a toujours un petit gâteau, il y a toujours un petit café, un plat qui traîne quelque part. Une scène aussi où ça permet de détailler une humeur. On a l'impression que vous vous servez parfois de la cuisine pour approfondir une émotion, pour caractériser un peu plus ou une situation ou un personnage. Alors pour être un peu plus concrète pour les auditeurs, je vais donner des exemples. Dans Le voleur de nostalgie, le narrateur est un chroniqueur gastronomique dans un hebdomadaire parisien. Et chaque semaine, donc, il raconte une histoire en donnant une recette de pâtes. C'est pour vous l'occasion d'évoquer des souvenirs culinaires, de montrer comment odeur et saveur sont associés à la mémoire, sont associés à des émotions. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans Assez parler d'amour. La cuisine, les repas jouent un rôle dans l'intimité des personnages, reflètent leurs émotions, des états. Voilà. Et ça, c'est assez différent selon les livres et selon la façon dont vous les écrivez. Comment utilisez-vous ce matériau littéraire?
Alors, c'est parce que la nourriture, littéralement le fait de se nourrir, relève de deux choses. D'abord, c'est dans la pyramide des besoins, qui se termine par l'estime de soi. Ça commence quand même par le besoin de se nourrir. Trouver un endroit pour dormir, boire, se nourrir. Donc c'est vraiment un besoin de base. Ensuite, c'est quelque chose qui nous ramène à l'animal. Donc dans l'animalité, il y a quelque chose de très très profond, et le goût et l'odorat s'en approchent de manière extrêmement proche pour nous de l'animal. C'est pour ça que parfois la vision est moins efficace pour se souvenir qu'une odeur qui revient. Et quand on dit la Madeleine, c'est vraiment ça. Ce qu'avait bien compris Proust, c'était que effectivement les éléments mémoriels, l'amnésie, vient là, plus loin, amnésie, vient avant tout de phénomènes cognitifs très profonds. Je trouve les sciences cognitives formidables pour ça aussi, parce qu'elles permettent de mieux comprendre notre fonctionnement. Je ne dis pas qu'elles permettent de comprendre le fonctionnement de la littérature, mais en tout cas, elles nous permettent de voir que l'usage, à un moment donné, de la cuisine, avec son apparat, c'est-à-dire l'odeur, le goût, la texture parfois, lorsqu'on mange un plat, relève de ces éléments sensoriels qui amènent au récit quelque chose d'intime, de profondément intime. Et cette intimité qu'on a avec la nourriture, c'est une intimité qu'il faut absolument faire passer dans le récit. Et elle joue à un moment donné un rôle. Et chacun des plats qu'on utilise n'est pas tout à fait utilisé au hasard. C'est-à-dire, le café, il joue un rôle à la fois pour dire l'instant, c'est-à-dire ça se passe à un certain moment, et ça va durer un certain temps. C'est un peu comme quand on est face à un sonnet, on sait qu'un sonnet, ça va durer une minute. On sait que lorsque les gens prennent un café, ça va durer un certain temps de récit, pas plus, quoi. Parce qu'il sera froid à un moment donné, on pourra même le signifier que le café est froid. Mais il amène avec lui toute une série d'images qui sont le contraste entre le noir du café, la couleur de la tasse, l'odeur amère de l'arabica ou du robusta, des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'intime et qui participent du récit. C'est pour ça que ça doit être utilisé comme tel. Ça ne doit jamais être fait au hasard. Et si on décide dans un de faire un sushi dans un roman, il faut que ça ait du sens. Il faut que cette décision aille de pair avec la narration. Qu'à un moment donné, les choses doivent servir.
Vous désirez deux Blue Lagoon, dit l'homme. Elle a fait oui de la tête. Je disposais la glace pilée dans les coupes et je ne cessais de les regarder parce que c'est beau la tendresse. J'ai préparé le Blue Lagoon sans hâte. J'ai mis dans le shaker autant de curaçao, de vodka et jus de citron. Secouez, versez le tout sur les deux îles de glace, une lamelle de citron, une autre d'orange, une cerise dans chaque verre, un vaset.
Il y a une autre utilisation qui est par exemple dans Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable, Hervé Le Tellier, qui est ce recueil de très courts textes et d'aphorismes qui commencent tous par « je pense que ». Bon, là, on lit les contraintes et le jeu, évidemment, à travers les lignes. Et il y en a un certain nombre sur le plaisir de manger ou pas. Je vais en lire quelques-uns. Vous allez les commenter si vous voulez bien. Je pense que ces gens qui décortiquent leurs crevettes et les entassent sur un coin d'assiette pour se décider à les manger quand tout le monde a fini les siennes méritent qu'on leur en vole.
Bah oui, ça c'est une psychologie. Ça c'est une définition d'une psychologie humaine. C'est-à-dire qu'il y a deux types de personnes, ceux qui mangent ce qu'ils aiment d'abord et ceux qui mangent ce qu'ils aiment après. Vous voyez, il y a toujours deux genres de personnes, y compris sur la butte, y compris dans la nourriture. Mais ça c'est une définition de psychologie. Les gens qui accumulent pour ensuite profiter solitairement de ce plaisir de manger leurs crevettes qu'ils ont entièrement décortiquées, c'est une forme quand même très très spéciale de supplice de tantale qu'on s'applique à soi-même pour, c'est un peu catholique quand même, ce refus du péché immédiat où on repousse et à la fin on craque et on mange tout.
Donc ça dit quelque chose de la personnalité de la personne.
Ça dit vraiment quelque chose de la personnalité et...
vous n'en faites pas partie manifestement.
Ah non, pas moi, mais j'observe ça toujours. Il y a plein de rapports à la nourriture lorsqu'on est à table avec des gens qui sont des rapports névrotiques. Hein. J'en fais partie, hein, je ne me mets pas hors du tableau. Hein. Je ne connais pas les miens parce que par définition, si je les connaissais, je ne serais plus névrosé. La table est un lieu d'exposition du soi, de manière, métaphorique. Hein. C'est-à-dire, jamais les choses ne sont dites, c'est simplement des façons d'être au monde, voilà, comme disent les philosophes allemands, le « être au monde ». Qui s'exprime de manière absolument évidente dans le rapport à la table. C'est freudien, quoi. Il y a du Freud, du rapport buccal, oral, très présent.
Bon, je continue cette lecture, il y a des conseils. Je pense que pour cuire un œuf à la coque sans montre, il suffit de réciter 3 fois le dormeur du Val, 4 fois si on le veut plutôt mollet. C'est vrai ça? C'est éprouvé? C'est fait? C'est expérimenté?
C'est la longueur d'un sonnet. Un sonnet, ça fait 14 vers de 12 syllabes. D'expérience, c'est rare que ça dure plus d'une minute, 1 minute 5. Et donc effectivement, si on connaît par cœur un sonnet, on a des fortes chances d'arriver à cuire un œuf à la coque sans compter. Mais c'est vrai pour les chansons aussi. Si vous connaissez une chanson qui dure 3 minutes 40 et vous la faites intégralement, vous faites 3 minutes 40. Et c'est encore plus net, je pense, pour les chansons.
Est-ce que le temps passé à table compte pour vous? Est-ce que vous passez du temps à table?
Oui, je passe beaucoup de temps à table. Si je suis seul, je passe 30 minutes. Mais si on est à table, il n'y a plus de limite. On n'est plus vraiment à table, on est entre amis. Le contexte du plat est oublié pour laisser la place à tout à fait autre chose.
Je pense qu'un jour, j'ai renversé une crème renversée et un autre jour, brûlé une crème brûlée.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'aime bien le nom que portent les plats. Et je trouve que crème renversée et crème brûlée, c'est deux plats qui m'évoquent les choses. Mais les crèmes, de manière générale, par exemple, la crème anglaise, pour les Anglais, n'est pas la French cream. La French cream, c'est la crème chantilly. Et pour nous, la crème chantilly, ben, c'est en rapport directement avec la ville de Chantilly, ils n'ont pas d'équivalent, voilà. Non, le nom des plats est toujours assez formidable, les œufs brouillés, par exemple. J'aime bien simplement œufs brouillés, c'est pas... On soit très évocateur, mais on peut imaginer aussi, si on se ramène du figuratif, qu'ils sont en colère les uns contre les autres, quoi. J'aime bien cette idée-là.
Je pense que je rajoute toujours du poivre sur les plats. sans même les goûter, et que si c'est trop poivré après, je fais comme si de rien n'était.
C'est vrai. En fait, comme je vieillis, c'est jamais trop poivré. J'adore vraiment le poivre. Et autant je ne mets jamais de sel, autant je mets toujours trop de poivre. Mais je pense que les gens se comportent aussi de la même façon. Il y a des gens qui ne goûtent pas les plats et qui mettent systématiquement du sel avant de les goûter. Ça aussi, c'est un comportement névrotique intéressant. Alors moi, c'est le poivre. Voilà, c'est peut-être un peu moins grave.
Et une dernière, je pense que lorsque l'on fait revenir des champignons dans une poêle, il se trouve toujours quelqu'un pour dire « ça réduit beaucoup ».
Ah mais oui, mais vous pouvez le vérifier. C'est exactement comme les gens qui rentrent dans une piscine et qui disent au début « elle est froide, mais après elle est bonne ». Ça fait partie de ces phrases de la vie quotidienne qui font le sel de la vie, qui font qu'on est content de les retrouver. Et pour ma part, lorsque quelqu'un me dit « ça réduit beaucoup », mais je retrouve une sorte de plaisir intérieur de savoir que c'est vrai, ça réduit beaucoup et je suis tellement content qu'on me le redise.
Bon, Hervé Le Tellier, je crois qu'on pourrait continuer, mais qu'en même temps, si on continue là à table, l'ossobuco va pas se faire et vos invités vont arriver. Rien ne sera prêt, donc on va passer en cuisine.
Mais oui, absolument.
Vous allez nous parler de la cuisine, de cet espace. Est-ce que déjà c'est une pièce à vivre? Est-ce qu'on y mange? Quel est l'équipement? Est-ce que vous avez beaucoup d'ustensiles? Elle est assez chargée, cette cuisine, déjà.
Il y a beaucoup d'objets. Tout le monde me reproche l'omniprésence de robots, mais... C'est d'abord une cuisine avec un îlot, comme on dit, et sur cet îlot, il y a un bar. C'est-à-dire que je pense que c'est important que lorsque les gens arrivent et qu'ils s'installent à table ou près de la table, puissent continuer à discuter avec eux pendant qu'on cuisine. Donc c'était un peu l'idée, c'est-à-dire d'avoir un îlot central avec vue sur les invités et vue sur le petit bar, qui est un vieux bar de... Je pense que c'était vraiment dans un bistrot populaire, parce que c'est du zinc, c'est pas de l'étain. Et c'est un bois peint, mais il est à la bonne hauteur. Je sais plus qui disait « le ciel est trop haut, la terre est trop basse, le bar est juste à la bonne hauteur ». Je crois que c'est O'Brien, voilà, qui a toujours un sens de la formule parfaitement adéquate. Eh bien, ce bar est juste à la bonne hauteur. Et en plus, on peut cuisiner dessus, parce qu'il y a une planche de zinc, et que je vais, de ce pas, couper le cerfeuil.
Autrement dit, c'est l'élément central de cette cuisine, le bar, si j'ai bien compris. Donc je vous laisse vous installer sur la planche pour couper votre cerfeuil. Dites-moi, parce qu'on va parler un peu recette quand même, pour l'ossobuco, donc des carottes, on a bien compris, vous les coupiez au début, du cerfeuil, et puis qu'est-ce qu'il faut d'autre?
Je pense que la logique de la cuisine, c'est qu'on fait avec ce qu'on a, quoi. On regarde ce qu'on a dans son frigo. Il y a des choses qui sont indispensables, qui sont les oignons, c'est vrai, l'ail, le bouquet garni. Mais il y a des choses où on peut se passer. Par exemple, je vais me passer du bouillon cube, dont je ne suis pas certain qu'il ne contienne pas un tout petit peu de gluten. Voilà. Mais sinon, je pense que la cuisine est faite pour être un lieu, non pas sacralisé, mais ouvert. Donc on peut mettre un peu ce qu'on veut dans les plats.
Je peux vous faire une petite confidence, Hervé Le Tellier ?
Oui.
Vous êtes en train de couper du céleri, ça commence à arriver à mes narines. J'ai horreur du céleri.
Ah mais cuit, ça n'a plus du tout de goût.
Ça a un goût toujours.
Ah oui, très bien. Eh bien donc, ce qu'on va faire, vous savez ce qu'on va faire ? Eh bien, on va retirer le céleri de cette recette, ce qui prouve une très grande malléabilité finalement du chef.
Est-ce que vos placards sont... plein, toujours plein? Est-ce que le frigo est toujours plein? Est-ce que dans votre rapport névrotique à l'alimentation, à la cuisine, à la table, Hervé Le Tellier, le fait qu'il faut que ce soit toujours plein fait partie des problèmes?
La peur de manquer? Non, le frigo n'est pas toujours plein. Il y a toujours un plat de secours au congélo. Voilà, ça c'est la règle. Mais sinon, non, j'ai pas une terreur absolue. Je pense malgré tout... que si on ouvrait mon placard, il y aurait beaucoup, beaucoup de boîtes de pâtes. C'est une possibilité non négligeable. J'ai quand même une angoisse de manquer, qui se concentre sur la boîte de pâtes, peut-être. Je pense que c'est le seul mais qui soit présent en centaines d'exemplaires. Et j'ai une préférence, je crois, pour les farfalles.
Bon, alors reprenons, parce que vous n'avez pas choisi de faire un plat de pâtes, vous avez choisi de faire un ossobuco. Mmh. Donc maintenant que vous avez coupé le céleri, le cerfeuil, je ne le vois toujours pas, hein.
Non, non, il est au frigo, je vais le faire plus tard, au dernier
donc,
moment.
La suite, c'est quoi?
La suite, c'est les oignons.
Vous avez une façon particulière de le couper?
Sans pleurer.
On parle d'un verre d'eau à côté de l'oignon pour éviter de pleurer, ça marche pas? Il y en a un là, verre d'eau.
Persuadé que ça tient de la pensée magique.
Et qu'est-ce que, plus largement, qu'est-ce que votre rapport à tout ce qui touche à la nourriture et à la cuisine, au plaisir de la table, tout ça, dit de vous, compte tenu de ce que vous nous dites là? Est-ce que ça dit quelque chose de la formation mathématique que vous avez eue? Est-ce que ça dit quelque chose du jeu qui vous anime? Est-ce que ça dit quelque chose de l'écrivain que vous êtes et de votre façon de travailler? Est-ce que ça dit quelque chose de l'homme?
Ah, je sais pas. Je pense que, par exemple, le fait de ne pas observer la recette à la lettre, de ne pas tomber, de ne pas défaillir parce que j'ai mis 25 grammes de beurre au lieu de mettre 50, je pense que ça... C'est ma foi dans la vie qui s'exprime, le fait que je ne pense pas que parce qu'on a dévié de quelques centimètres, il va se passer quelque chose de grave. Voilà, ça je crois absolument pas à ça. En revanche, je ne me lancerai pas dans la fabrication d'un soufflé, par exemple. Je suis persuadé que là, il faut une sorte de savoir-faire, de température, du four, enfin, toute une série de choses que je ne maîtrise absolument pas. Donc il y a des choses que je m'interdis. Donc ça dit aussi ça, peut-être une certaine modestie par rapport au monde. Je ne sais pas trop de faire des choses que je ne sais pas faire. Mais sinon, oui, ça dit peut-être un petit rapport de flexibilité. Sur les mathématiques, je ne sais pas.
Par exemple, sur la façon de couper des oignons ou des carottes, est-ce qu'il faut que ce soit en carré, en rond et surtout très très régulier ou
ça,
pas
ça
du tout?
Ça dépend de la recette. Il y a des règles absolues. La soupe à l'oignon... On aime bien retrouver dans la soupe à l'oignon le rond de l'oignon. Voilà. Puis j'ai un rapport à l'oignon qui est un rapport d'oulipien, c'est-à-dire que je pense toujours, quand on parle des oignons, à une phrase de Queneau qui dit que les romans sont toujours comme des oignons avec de nombreuses couches. Et au bout d'un moment, une sorte de culture de littérature vient se poser au-dessus de la vision d'un plat ou de la vision d'un légume. Alors j'en ai pas pour les carottes, mais pour les oignons, j'ai quand même cette phrase de Queneau qui m'obsède, parce que je la trouve tellement juste. C'est vrai que la plupart des romans que j'écris, il y a beaucoup de couches. Et je pense que c'est ça la recette d'un roman, c'est qu'il faut qu'il y ait à manger pour des gens qui lisent beaucoup de livres, à manger pour des gens qui ne lisent que peu de livres. On ne veut pas voir ce qui est de l'intérieur et de l'ordre de l'extérieur. Une fois que le livre est mangé, on s'arrête à un moment donné dans l'oignon qui est le livre, à un niveau, mais ce n'est pas grave, l'oignon reste toujours aussi intéressant. Mais je me souviens d'avoir un peu regardé dans Flaubert, dans Salammbô par exemple, des définitions ou des descriptions qui font directement référence à des choses qu'il a écrites dans sa correspondance avec Louis Collet et qu'on retrouve dans Salammbô, et on se dit « Ah, c'est amusant, je l'ai déjà vu quelque part et on est content ». Mais si on ne l'a pas vu, ça n'a aucune importance. Donc c'est cette idée que les livres sont faits pour être lus par tous, et l'idée des couches de l'oignon reflète un peu cette métaphore. À travers cette métaphore, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien.
Bon voilà, l'oignon est coupé avec tout ça. Oui. La suite, c'est quoi?
La suite, ça sera peut-être les faire revenir pendant, je sais pas, 5 minutes. Et puis ensuite, on va réserver, comme on dit. Et après avoir réservé dans cette fétou dans lequel aura donc cuit le soukou, nous jetterons les tomates pour les faire revenir, ainsi que l'oignon. On fera cuire un petit peu, et ensuite un peu de vin blanc, un peu de pulpe de tomate, et hop.
Et le tour est joué.
Le tour est joué.
Merci à vous, Hervé Le Tellier.
Mais merci à vous.
Et bon appétit.
Merci. Bon appétit à vous. Je ne sais pas si tous les cuisiniers et cuisinières sont aussi confus que moi, mais je ne retrouve jamais les ouvre-boîtes, par exemple.
Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur notre site franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Merci à Fanny Constant pour la réalisation. Bonne journée à l'écoute de France Culture.